Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Et encore des... Je pense qu'on devrait appeler ta chronique vulgarisation ou plutôt scientifique, on devrait plutôt appeler ça science-fiction, mais science-réalité.
Ah oui, ben oui, ben oui, science, absolument, absolument.
Et encore oui. Des trucs... Enfin, moi, je suis très fier parce que beaucoup des sujets de recherche que tu nous amènes, en fait, ces recherches-là émanent du Québec.
Oui.
On voit que les chercheurs ici font des avancées importantes qui peuvent avoir une portée mondiale.
Tout à fait. On n'a rien envié des autres. On fait de la très, très belle recherche au Québec.
Exactement. On parle de hyperscanning cérébral.
Oui. Une affaire qui sortir de la science-fiction.
Oui.
Mais on va tout expliquer ça dans quelques instants. Mais avant d'y arriver, on est dans un contexte où on va parler des gens atteints du trouble du spectre de l'autisme.
D'accord.
Qui est une... On va résumer ça en disant c'est une différence du développement du cerveau chez ces personnes-là et qui a pour conséquence, on pourrait dire comme ça aussi, que ces gens-là vont percevoir le monde un peu différemment des autres.
Hein? Exact.
Ces gens-là vont penser et interagir aussi d'une manière... disons, unique par rapport à des personnes qu'on va considérer comme étant neurotypiques.
Voilà. D'accord. Et ça, c'est dans les interactions sociales, c'est là que ça fait la plus grande différence souvent.
C'est ça. T'sais, en fait, il y a des combinaisons de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux comme les interactions, bien entendu. Et d'ailleurs, des chercheurs se demandent, justement, sur le plan physiologique, le plan comportemental et cérébral, comment ça se passe au niveau des interactions sociales chez les personnes autistes et surtout, comment ça, c'est différent par rapport à des personnes neurotypiques.
D'accord. De voir qu'est-ce qui est dans le cerveau, quel neurone s'allume, si je peux dire, quel chemin. Quel parcours neuronal on retrouve par rapport à une situation par rapport à une autre.
Voilà. Et puis là, il y a une équipe de recherche pilotée par un chercheur de l'Université de Montréal, le docteur Guillaume Dumas, qui travaille également au CHU Saint-Justine. Et c'est une recherche qui est faite par beaucoup d'autres chercheurs. Là. C'est une grosse équipe de chercheurs de la faculté de médecine et du département de psychologie à l'Université de Montréal. Donc, c'est important de le souligner. Là. C'est un gros travail colossal. Et ce projet-là, d'abord, il se nomme SCALE. C'est un acronyme pour Social Cognition in Autism Across Levels.
Oui, ça permet de faire des communications scientifiques en anglais et malheureusement, c'est la langue privilégiée pour ce genre de choses.
Mais le projet, dans le fond, c'est de caractériser, d'essayer de mieux comprendre comment la dynamique des interactions sociales se fait chez les jeunes autistes avec leurs parents. Et pour ça, on arrive dans le côté un peu science-fiction pour certains. Ces chercheurs-là vont utiliser une technique qu'on appelle l'hyperscanning cérébral.
D'accord.
Donc, c'est une technique, finalement, qui permet d'enregistrer en temps réel l'activité électrique des neurones dans le cerveau lorsque des personnes sont en interaction l'une avec l'autre.
De plusieurs personnes en même temps. Donc, en fait, c'est comme si on voyait les cerveaux communiquer entre eux, voir qu'est-ce qui, comment ça réagit. Wow.
Exactement. On fait ça avec des électrodes qu'on dépose à la surface de la tête avec un espèce de petit casque de bain. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des études antérieures qui ont montré qu'avec cette technique-là, on est capable d'observer ce qu'on appelle des phénomènes de synchronisation neuronale interpersonnelle. Ça fait qu'autrement dit, à des moments, il y a des gens qui vont avoir des patterns d'activité électrique neuronale dans le cerveau qui vont être très similaires.
Oh.
Et tu sais, François, quand on dit être sur la même longueur d'onde...
C'est vrai!
Je pense que ça résume très bien le but de cette technique-là. On est vraiment rendu là. On regarde à quel point les gens sont sur la même longueur d'onde. Voilà.
Bientôt, on va communiquer par la pensée, mais ça, on le fait déjà, mais faut pas en parler.
Ouais. Oui. Fait que dans le protocole, on va regarder, dans le fond, 40 jeunes enfants âgés de... en fait, 80 enfants âgés de 6 à 16 ans. Il y en a 40 qui ont un diagnostic d'autisme. Les 40 autres sont considérés neurotypiques. Et on va observer pour chacun de ces enfants-là ce qui se passe au niveau des interactions avec un de leurs parents, par la technique que je viens de décrire. Tout ça, ça génère énormément de données, là, puis ça prend de l'intelligence artificielle pour les analyser, là. C'est beaucoup trop volumineux. Mais ce qu'on va espérer en faisant les analyses avec ces données-là, ben, c'est qu'on soit capable de voir peut-être des différences entre les groupes des enfants autistes versus les enfants neurotypiques. Puis pas de problème aussi de mieux comprendre en quoi l'interaction du parent vient agir au niveau en comparaison avec les enfants autistes versus les enfants non autistes, comment cette interaction-là se manifeste au niveau cérébral, là, activité électrique.
Oui, parce on peut imaginer toutes les pistes de recherche subséquentes avec cette immense banque de données.
Exact.
Et de voir les interactions de la bonne, d'une façon qui favorise le développement de l'enfant.
Assurément.
Ou qui pourra être le freiner. C'est formidable.
Puis adapter les protocoles peut-être d'intervention personnalisée auprès de ces personnes-là, raffiner les outils de diagnostic pour l'autisme aussi. C'est ça un peu l'objectif ultime de telle approche.
Alors, c'est à suivre. Bravo.
Oui, tout à fait,
l'hyperscanning.
Tout à fait.
Mais il se passe d'autres choses aussi à Montréal encore.
Oui, tout à fait. Et là, je vous amène dans un autre sujet. On va parler ici de démence frontotemporale. C'est une forme de démence qui apparaît relativement tôt. Là, on parle de 40 à 65 ans, l'âge moyen, où on voit apparaître les premiers symptômes de cette maladie, qui d'ailleurs correspond à 20 % des démences. Là, quand on fragmente ça, ça représente ça. Une maladie qui va se traduire par des pertes de mémoire, des changements de comportement, difficultés à parler et également à se mouvoir.
Alors, ça ressemble un peu à de l'Alzheimer, mais ce n'est pas de l'Alzheimer.
C'est exactement. Puis ce qui est très triste, c'est qu'on va perdre, l'autonomie va se perdre de manière totale au bout de 10 à 15 ans. Donc, ça a vraiment une conséquence très dommage.
C'est dur. Si je comprends, c'est la maladie dont Bruce Willis.
Oui, exactement.
L'acteur de films d'action bien connu, là, il en est malheureusement atteint. Voilà.
Exactement, voilà. Puis à ce jour, les options thérapeutiques sont très limitées. Là. On ne peut pas guérir la maladie, malheureusement. Mais il y a des chercheurs à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, donc on est ici au Québec, bien sûr, le neuropsychiatre Simon Ducharme, qui soit dit en passant.
Ah, c'est pas ton cousin?
Non, c'est pas mon cousin. On s'est pas encore croisés dans les parties de famille.
Okay.
Fait qu'on n'est pas cousins, mais on partage le même nom que famille. Mais aussi un autre chercheur, Denis Sira. Et ces deux chercheurs-là ont mis au point une thérapie génétique qui va être qui a été utilisée pour la première fois la semaine passée, là, le 1er mai dernier. Première fois au Canada au niveau d'études de la démence, puis la première fois en neurologie adulte au Québec. Donc, c'est vraiment une première. Mais il faut le mentionner, c'est une thérapie qui s'adresse spécifiquement à des patients qui ont cette démence-là, mais qui ont un gène défectueux. Et là, on va mettre le doigt dessus, là. C'est un gène qu'on l'appelle GRN.
GRN. Ça, c'est le gène défectueux qui cause à peu près 20 % des démences frontotemporales. Elle-même,
exactement,
qui est un groupe de l'ensemble des démences qui surviennent.
Voilà.
Alors, 20 % de 20 % mais ça fait à peu près 4 à 5 % des cas totaux de démence. Mais
voilà.
Ça semble
exact.
Petit, mais c'est pas rien, cette découverte de mutation de gène.
Non, pas du tout. GRN, c'est un gène qui produit une protéine qu'on appelle la progranuline. Puis
d'accord.
Ça, c'est une protéine qui est vraiment importante pour le bon fonctionnement du cerveau. Et si on n'en produit pas assez, ça finit par endommager les neurones. Et ça mène inévitablement au développement de cette maladie-là. Donc, ça montre quand même le lien important qu'il peut y avoir.
Le traitement consiste à injecter à la base du crâne du patient directement dans le liquide céphalo-rachidien. Là. Ça, c'est
tout
ce qui... c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau, si je peux
tout
dire.
Tout à fait, exactement, c'est ça.
Les particules qui contiennent le gène défectueux.
Voilà, exactement. En fait, qui contient le gène en bon état, bien entendu.
Ah, d'accord, contient le gène défectueux, ce serait pas très fort, parce que
ça
serait jeter de l'huile sur le feu.
Oui,
voilà, c'est pour ça que je suis pas chercheur. Bon.
Puis, ce qu'on espère en injectant ce gène-là, C'est que les cellules cérébrales puissent se mettre à produire un peu plus de la protéine en question.
Évidemment.
C'est une étude qui est à l'étape 1, la phase 1 qu'on appelle. Ça veut dire qu'on veut vérifier que c'est un traitement qui est sécuritaire, qui n'est pas dommageable, qui est inoffensif, autrement dit. Mais on ne se le cachera pas, là. On espère avoir déjà des résultats intéressants, des bénéfices pour observer, par exemple...
On a passé l'étape des souris, là. On est sur des êtres humains la semaine dernière.
Exactement. Puis on espère ici observer donc aussi une augmentation de production de cette protéine-là qui est en ce moment, qui manque chez ces personnes-là. Puis si ça marche, bien, on a peut-être laissé un bon traitement, un traitement qui est très prometteur pour retarder peut-être l'apparition des symptômes de cette maladie-là ou les atténuer. En fait,
du moins, il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir, tout à fait, c'est ça. Une porte qui s'ouvre ici pour offrir de l'espoir aux gens qui sont atteints, malheureusement, de cette forme de dépendance. Voilà.
Là, on va parler d'un coin de l'Europe dont on ne parle pas si souvent dans les nouvelles scientifiques, pas parce que ces gens ne sont pas de bons chercheurs, c'est simplement que c'est un petit pays, c'est en Lituanie.
Voilà. Tout à fait. En Lituanie, il y a des gens, en fait, une compagnie qui a mis au point un fauteuil roulant qu'on dit ergonomique nouveau genre. C'est-à-dire que, premièrement, le fauteuil roulant, on l'appelle le KIMI, le K-I-M-I. Et si vous cherchez sur Internet, la compagnie qui le fabrique, Cronus Robotics, vous allez rapidement tomber là-dessus. Là. Les gens le décrivent comme un robot de mobilité personnelle auto-équilibré.
D'accord.
J'insiste sur ces deux derniers mots-là parce que c'est un fauteuil roulant qui tient en équilibre lui-même sur deux roues.
Finalement, c'est pas autant un fauteuil roulant plutôt que comme une station debout roulante.
Oui, exactement. Si les gens ont en tête le Segway, le gyropode du fabricant Segway, si on va dans le vieux port de Montréal, on en voit parfois là, des gens qui se promènent là-dessus. C'est un peu le même genre. Donc, c'est un fauteuil roulant composé de deux roues. La personne peut être assise... mais peut être en position plus surélevée, de sorte qu'elle se retrouve à la même hauteur que d'autres bipèdes.
Ah oui, ça c'est important pour certains aménagements publics, ainsi de suite.
Puis, plutôt que d'avoir toujours le cou cassé puis à regarder de haut les gens, ben là, on peut être à la même hauteur. Ce fauteuil-là tient en équilibre par effet gyroscopique. Vous savez, quand on pousse une toupie qui tourne sur elle-même, là, qui ne tombe pas, ben, c'est l'effet gyroscopique, justement, qui permet à la toupie de demeurer en équilibre. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve à l'intérieur du dispositif de la chaise roulante. Ce sont des petits capteurs qui permettent de maintenir en équilibre la chaise roulante. Et l'utilisateur peut se déplacer par des mouvements du haut du corps, donc en avançant le tronc, en reculant.
En supposant que la personne est donc est en fauteuil ayant perdu l'usage de ses membres inférieurs.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Exactement.
Parce que à prime abord, c'est sûr qu'il y a une certaine stabilité quand on a un fauteuil qui a quatre roues, là, qui a quatre angles. On peut penser qu'avec juste deux, ben là, qu'est-ce qui peut advenir? Mais avec le gyroscope ou les gyroscopes, ça tient la route. Puis ça peut même aller assez vite, là.
Oui, absolument. Puis on peut varier de la position assise à debout. Ça a des bénéfices au niveau ergonomique. Donc, voilà quelque chose d'intéressant qui n'est pas encore, je crois, disponible, mais qui devrait venir sous peu. Là. Les prix seront affichés prochainement.
C'est équipé d'amortisseurs. Ça peut monter une pente de 20 degrés. Ça se plie, puis ça peut même se ranger dans le coffre d'une auto. Parce que tout le bazar pèse à peu près 38 kilos. Ça, c'est un petit peu plus de 80 livres. Et c'est alimenté par une batterie au lithium, lui procurant une autonomie de 30 kilomètres. Et on peut aller jusqu'à 20 km/h avec ça. Là, alors, peut-être sur une piste cyclable près de chez vous. Bientôt.
Surveillez ça. On va voir ça passer peut-être dans quelques années. Ça se peut très bien.
Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Encore une fois, des bonnes nouvelles, des rayons d'espoir. Puis on se reparle le mois prochain.
Assurément. Bonne journée à toi.
Merci.